Avec ce soir l'éditorialiste politique à Libération, notamment Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Alain.
Bonsoir. Bonsoir Alain Duhamel. La tradition veut qu'un ministre français, un premier ministre français, plante un arbre dans les jardins de Matignon après 6 mois passés rue de Varennes. François Bayrou lui l'a planté, mais ne récolte pas les fruits politiques. On le voit, il n'a pas attendu 3 mois d'ailleurs, puisqu'il est très impopulaire. C'est ce que vous nous révélez, Elisa Tranin. La cote de popularité de François Bayrou, déjà très faible en décembre, continue de s'effondrer. Bonsoir.
Oui, bonsoir. On va retenir surtout ce chiffre 18% d'avis favorables seulement. Selon le baromètre mensuel Elabe pour les Échos, c'est le score le plus bas mesuré pour un chef de gouvernement depuis ces 10 dernières années. Pour trouver un tel niveau d'impopularité, eh bien, il faut remonter à Manuel Valls en mai 2016 avec 22% d'opinion favorable à ce moment-là. Et puis Alain Juppé avait fait pire en tombant à 20% d'avis positifs. C'était en novembre 1996 et avant eux, Edith Cresson qui détenait le record depuis juillet 1991 avec ses 18% aussi d'opinion favorable selon les archives en tout cas de l'IFOP. Alors vous allez me dire, aucun Premier ministre n'a vraiment vu exploser sa cote de popularité. Bien, je vous rassure, il y en a quand même certains en qui les Français avaient confiance. Celui qui détient le record de popularité, c'est Jacques Chaban-Delma. On remonte à novembre 1970. 66% des Français à l'époque étaient satisfaits de son action. Évidemment, le chiffre fait rêver aujourd'hui. Tout de même, d'autres ont passé la barre des 60%. Michel Rocard, Édouard Balladur et puis Jean-Marc Ayrault. Alors Jean-Marc Ayrault, c'est un cas un petit peu particulier parce que pour lui, la dégringolade a été terrible. Il est parti de 65% de popularité au moment de sa nomination pour chuter à 18% en décembre 2013 selon le baromètre TNS Sofres. François Bayrou égale donc aujourd'hui ce triste record.
Merci Elisa Tranin. Donc le record de popularité, novembre 70, 66% pour Jacques Chaban-Delmas. Alain Duhamel, c'est vrai qu'on est dans un contexte international particulier, avec le monde qui est bouleversé, avec tout ce que fait Donald Trump. Et pendant ce temps, ça pionce, pardon, à rue de Varennes, à l'hôtel de Matignon. On a un dormeur à Matignon.
Bah écoutez, je ne crois pas qu'on ait une marmotte en train d'hiberner, si c'est le sens de votre question. Non, je crois qu'il faut tenir compte, enfin il me semble, de deux facteurs. La première, c'est que un Premier ministre qui a à la fois à affronter les bouleversements quotidiens déclenchés par Elon Musk et par Donald Trump à l'échelle qu'on connaît, une guerre en Ukraine qui en tout cas ne tourne pas bien, une situation budgétaire et financière de la France qu'il a trouvée en arrivant, il ne l'a pas inventée, il ne l'a pas accrue, mais qui est absolument consternante, et une majorité, si on peut dire, majorité entre guillemets, à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été aussi fendillée qu'elle l'est aujourd'hui. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas très facile. Alors, on dit qu'il ne fait rien. Alors, d'abord, il est arrivé à faire passer un budget, contrairement à son prédécesseur, et c'était quand même la priorité. Ensuite, il annonce mardi prochain, 15 avril, et c'était annoncé depuis des semaines et des semaines, le moment des choix et des décisions gouvernementales économiques, à la fois pour cette année et, hypothétiquement, pour l'année suivante. Bon. En plus, il a fait un pari, il a voulu avoir dans son gouvernement des poids lourds autonomes. Alors du coup, c'est vrai qu'on parle de ce que font Darmanin et Retailleau. Oui. Alors, on est d'accord ou pas d'accord, mais enfin, on en parle et on dit, ah ben oui, c'est eux qui font ça. Ou bien on dit ce que font Catherine Vautrin et Elisabeth Borne dans leur domaine. Et alors, évidemment, c'est pas Matignon, donc il paie ça. Bon, maintenant, si vous voulez dire, me faire dire qu'il a la politique de communication la plus archaïque depuis Pierre Messmer en 1973. Et si vous voulez me faire dire qu'il donne l'impression d'avancer au pas lent des montagnards béarnais, eh ben je vous dirais oui.
Alors, ça dort à Matignon ?
Oui, ça dort, ça pionce, ça ronfle à Matignon. Et la litanie de tous les premiers ministres que vous avez vus qui avaient des cotes de popularité très basses, avait aussi des cotes d'impopularité. On regarde pas assez souvent les cotes d'impopularité très hautes. Là, je pense qu'il a aussi une cote d'impopularité assez basse. C'est-à-dire qu'il a pas de cote de popularité et d'impopularité très haute parce qu'il fait pas grand-chose.
C'est l'indifférence, alors.
C'est un peu l'indifférence. Et tous ces personnages qui avaient donc des cotes de popularité très basses ont usé leur popularité. Certains sont partis très haut. Parce qu'ils ont fait des réformes et que c'est compliqué de réformer en France et qu'on a toujours un bloc contre soi et que on connaît l'enfer de Matignon, ça a été décrit par bien des confrères et on a tous
vécu ça. Et
des consoeurs. C'est des consoeurs, Raphaël Baquet notamment. L'enfer de Matignon, c'est que vous devez réagir tout le temps, vous devez être aux manettes tout le temps et vous devez réformer tout le temps et vous prendre l'Assemblée nationale parce que vous êtes responsable, vous et non pas le président de la République, devant l'Assemblée nationale. Il se trouve que on a alors le seul truc reposant, c'est qu'on a vraiment l'anti-Trump. C'est Trump. On a trois dépêches par jour avec des espèces de bombes atomiques tous les jours.
On ne perd pas aux charges.
Là, on a jamais une nouvelle plus haute que l'autre, donc ça repose un peu, mais c'est pas tout à fait satisfaisant. Oui. Donc et quand vous dites Alain. Faut que je m'oppose un peu à vous, hein, c'est un face à face. Quand vous dites Alain, il doit faire face à une guerre en Ukraine, à ce que dit Trump,
qui tourne mal,
au tremblement de terre en Birmanie, il fait face à rien. Il est comme nous, il regarde la télé, il voit tout ça, il commente un peu. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il pense sur grand chose. Voilà. Et puis il rentre à Pau le jeudi soir, il revient le lundi. Il lui faut une ligne d'avion. Il a quand même imposé.
Le jeudi soir, je suis pas sûr.
Ou le vendredi peut-être.
Le vendredi soir.
Je crois qu'il est à Pau là déjà.
Il est à Pau. Non, mais en général.
Non, mais là on est mercredi, on est jeudi. Il est déjà à Pau. Il y a peut-être un match de top 14. C'est très sympathique.
Sérieusement, quand
cela dit, il ne peut rien faire. Il n'a pas de majorité.
C'est quand même un facteur qui
compte. Oui, mais à l'Assemblée, donc il ne fait rien.
À l'Assemblée, c'est quand même très compliqué. Il y a plein de lois qui n'avancent pas, qui sont repoussées. Le bloc central qui est censé le soutenir. Se divise sur plein de textes en ce moment. Les Français, je pense, ne le voient pas parce que l'actualité est internationale. Oui. Mais ça ne se passe pas bien à l'Assemblée. Or, c'est lui qui doit mener, qui est le chef d'orchestre.
Alors, je suis d'accord. Je commence par dire quelque chose qu'on aurait dû entendre et qu'on n'a pas du tout dit, là, quand on a essayé de mesurer sa popularité, etc., ou plutôt son impopularité, c'est qu'il y a 55% des Français qui ne souhaitent pas qu'il soit censuré. Pourquoi ? Parce que dans une période qui est convulsive, on ne peut pas dire le contraire, dans une période convulsive, il essaye d'incarner une politique d'apaisement et que les Français ont plus envie d'une politique d'apaisement que d'une politique de rupture et de fracas. De ce point de vue, avec lui, ils sont servis, il n'y a pas de rupture et il n'y a pas de fracas. Bon, maintenant, s'il s'agit de dire que à l'Assemblée, ça se passe très mal, que bizarrement, d'ailleurs, moi j'avais le souvenir de lui qui se débrouillait bien à l'Assemblée dans ma jeunesse, mais que bizarrement... il n'y est visiblement pas à l'aise lui-même quand il prononce un discours ou quand il répond aux questions orales, et que sa majorité donne le sentiment d'être très exactement une majorité, toute relative bien entendu, mais une majorité malgré elle. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à faire vraiment autrement et qu'ils ne savent pas comment ça pourrait se passer, mais sans aucune envie de coopérer ni de s'entendre. Et que c'est un handicap dont il porte forcément une part de responsabilité, mais dont les leaders des différentes sensibilités de ce qu'on appelle le socle commun portent aussi une part de responsabilité. Wauquiez tente en permanence d'empêcher les lois de passer alors que son parti est représenté de façon très significative au gouvernement. Les Horizons, Édouard Philippe, il n'est pas lui-même député, mais il est le président d'Horizon. Horizon prend des distances en de nombreuses occasions, et même le MoDem râle. Le MoDem, le parti de François Bayrou, râle contre lui, ce qui quand même est quelque chose d'assez inhabituel.
En fait, il tient la baraque pendant que et tout le monde se dit pendant qu'il est là, il se passe rien, et tant mieux parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Il n'y a pas de majorité alternative, à moins de faire des élections législatives, ce dont qu'on ne peut pas faire avant l'année prochaine, et même s'il y avait des élections législatives, une bonne partie de ceux qui s'opposent à François Bayrou n'a pas envie d'aller au combat électoral aujourd'hui. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'on aurait pu se dire que c'était le moment Bayrou. Bayrou théorise depuis très longtemps le fait d'avoir un grand centre. Contrairement à Emmanuel Macron qui voulait un dépassement du clivage gauche-droite, Bayrou ne l'a jamais nié, mais il a dit il y a des gens à gauche et des gens à droite qui doivent garder leur particularité, mais qu'on peut faire travailler ensemble sans nier ce qu'ils sont. Et il faut des coalitions. Et pour ça, disait-il, il faut savoir faire travailler les gens ensemble. Il ne peut pas le faire, il n'y arrive pas. Et selon moi, c'est pas de sa faute. Selon moi, c'est parce que tous ces gens ont été élus au scrutin majoritaire et non pas à la proportionnelle. Donc, pas avec un état d'esprit de compromis, avec un état d'esprit majoritaire. Chacun se présente en se disant j'aurai tout le pouvoir. Alors que s'ils s'étaient présentés à la proportionnelle, ils auraient su dès avant qu'il fallait faire des compromis. Et donc, il ne peut pas faire le Bayrou qu'il rêvait et qu'il vante depuis des années. Il ne peut pas l'appliquer.
Alors, deux choses. La première, c'est qu'il a envie de faire la proportionnelle. Et
ça se voit pas beaucoup.
Ah non, mais il en a envie.
Il l'aurait promis à Marine Le Pen.
Et il a des partenaires ou même des adversaires comme Marine Le Pen qui le souhaitent aussi. Donc,
Pensez que Marine Le Pen le souhaite encore beaucoup ?
Oui. Ah oui, absolument.
Généralement, au-dessus de 30%, on ne souhaite plus la proportionnelle.
Ah si, je crois qu'elle le souhaite tout à fait parce que
ça serait
une proportionnelle, bien entendu, avec une clause favorable quand on a la majorité, c'est-à-dire avec 25% en plus si on arrive en tête. Enfin, bref.
Il n'arrive pas à le faire.
Oui, elle. Non! Non. On ne peut pas dire qu'il n'arrive pas à le faire. Je crois qu'il va essayer de le faire et que ça a de bonnes chances de se faire.
Ça lui permettra d'avoir un bilan aussi.
Par exemple. Oui, de même que...
La proportionnelle, on en parle depuis 40 ans.
De même que le fait que les électeurs de Paris, Lyon et Marseille puissent avoir les mêmes droits que les électeurs des autres communes de France, oui. Et en ce qui concerne le centre... je pense que Thomas a raison de dire qu'il a toujours rêvé de rassembler le centre-gauche, le centre-droit, bref, les gens capables de travailler ensemble. Mais il a toujours eu une autre idée en tête, c'est qu'au milieu de ça, le noyau dur de toute coalition, ça doit être un centre qui, alors pour le coup, est un centre autonome. Je ne dis pas indépendant des autres, mais autonome. Et qu'il a toujours ça au fond. Il a toujours eu l'idée que le centre, le vrai centre, c'est-à-dire, à ses yeux, le sien, évidemment, devait être le pivot d'une majorité.
Là, il est chef de la majorité. Et il n'y a pas de majorité.
Il arrive que le MoDem, donc son parti, soit en colère contre lui.
Mais permettez, Thomas et Alain, on pose la question de savoir est-ce qu'on a un dormeur à Matignon ? Est-ce qu'on n'a pas un dormeur et un gaffeur ? Parce qu'en fait, il avait le dossier des retraites, François Bayrou, et il l'a flingué lui-même, le dossier
mais
des retraites, avec sa fameuse sortie sur on ne reviendra pas aux 62 ans. Donc, dormeur et gaffeur, François Bayrou.
C'est un peu contradictoire. C'est faire des gaffes quand on
quand on se réveille, si on fait une gaffe, on n'a pas intérêt à s'endormir.
Ici, c'est un peu compliqué, mais effectivement, oui. Le bilan qu'il aurait pu avoir vraiment flatteur, il aurait pu s'enorgueillir de dire moi, au moins, après trois premiers ministres de Macron, j'ai réussi, avec ma méthode du compromis, à régler la question des retraites. Et il l'a flingué.
Je ne suis pas du tout d'accord. D'une part, parce que il a toujours été pour la retraite à 64 ans.
Il n'y a plus personne dans le
Mais là, on s'en fout.
C'est pourquoi il est. C'est sa conviction.
Oui, mais s'il est
deuxièmement et surtout, le conclave, ça n'est pas fini. Si à l'arrivée.
Ouais, ça c'est FDT, si, MEDEF.
Oui. Non, il y en a d'autres qui sont restés, bien entendu, mais c'est eux qui mènent le jeu.
C'est eux qui mènent le jeu.
Enfin, oui, mais il y en a d'autres qui sont là quand même.
Disons qu'il n'a pas facilité.
Et c'était important qu'ils y restent. Non, mais il a gaffé, je ne vous dis pas le contraire. Ouais. Mais maintenant, il y a une chance que ça se termine par certaines améliorations substantielles, en particulier, soit pour les longues durées. Et s'ils y arrivent, ça ne sera pas la révolution, mais ça sera une amélioration pour des millions de gens. Donc,
il sera passé quelque chose pendant son sommeil, s'il y arrive.
Mais ce qui permettra au Parti Socialiste de dire « j'ai obtenu quelque chose », de ne pas le censurer.
Absolument, même si c'est quand même davantage fait pour les Français que pour les partis. et pour la CFDT que pour le PS.
Une dernière question, François Bayrou, il peut tenir jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du quinquennat?
Alors jusqu'en 2027, disons que c'est très incertain, mais plus que ses deux prédécesseurs, c'est très possible.
Il peut tenir longtemps parce que le Rassemblement National ne va pas vouloir le renverser avant l'appel, parce que je pense que le Rassemblement National n'a pas intérêt à susciter du désordre et peut-être une élection présidentielle anticipée avant de connaître le résultat de l'appel. Et je ne pense pas que le Parti Socialiste soit très enclin à vouloir se précipiter vers des législatives.
Il y a un congrès, il faut rappeler aussi.
Il y a un congrès.
Donc il a des chances jusqu'en 2017. À condition de ne pas trop gaffer.
Merci Alain Duhamel, merci Thomas Legrand.